Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on continue nos lectures instructives avec le livre d'Aurélien Berland, La fabrique des derniers hommes, aux éditions de La Découverte.
En passant des cellules monacales dans la vie professionnelle et en commençant à dominer la moralité intramondaine, l'ascèse a contribué à édifier le puissant cosmos de l'ordre économique moderne qui, lié aux conditions techniques et économiques de la production mécanique et machiniste, détermine aujourd'hui, avec une force contraignante irrésistible, le style de vie de tous les individus qui naissent au sein de cette machinerie, et pas seulement de ceux qui gagnent leur vie en exerçant directement une activité économique. Peut-être le déterminera-t-il jusqu'à ce que le dernier quintal de carburant fossile soit consumé.
En quelle année est-ce que Max Weber a écrit cette phrase que vous nous lisez, Aurélien Berland ?
C'était il y a exactement 110 ans, en 1904.
Donc ce qui la rend assez extraordinaire, c'est sa date, effectivement. On n'aurait pas imaginé une telle lucidité il y a si longtemps. Mais ce qui la rend extraordinaire aussi, c'est à quel point elle est une clé de lecture de ce qui se passe aujourd'hui, de notre époque, d'aujourd'hui. Et en fait, Aurélien Berland, vous avez trouvé chez des sociologues allemands du 19e siècle, des textes qui sont d'une actualité brûlante et plus que ça, ce sont des clés de lecture, comme je le disais, ce sont des moyens, des outils d'analyse pour ce qu'est devenu notre société. Tout à fait intéressant. Vous avez publié un livre, La fabrique des derniers hommes. Vous nous expliquerez ce titre, bien sûr. Mais d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez comment et pourquoi vous avez choisi trois sociologues allemands, Tönnies, Simmel, Weber. On connaît surtout les deux derniers. Vous y avez ajouté un personnage tout à fait intéressant.
Donc Ferdinand Tönnies. Pourquoi je les ai choisis ? Bah moi, je m'intéressais, hein, j'avais le sentiment, comme beaucoup d'autres personnes aujourd'hui, qu'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est pas seulement le fait que les moyens de production, que les forces productives modernes soient dans la propriété privée d'une petite couche de population, donc qu'on appelle la bourgeoisie ou les capitalistes, et que les autres en sont privés, mais que les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment les problèmes écologiques, mais pas seulement, les problèmes sociaux, politiques, sont liés à la nature même de ces forces productives, de ces moyens de production industrielle, cette production de masse, qui entraîne toute une série de problèmes à tous les niveaux, et sans qu'on puisse imaginer qu'un changement de propriété de ces moyens de production soit une solution à ces problèmes-là, contrairement à ce que pensaient les marxistes, les communistes pendant longtemps, qui estimaient que tous les problèmes de notre époque étaient seulement liés à la propriété privée des moyens de production et non pas à la nature même des forces productives qui étaient mises en jeu. Et je me suis intéressé donc du coup à ce qui se passait en Allemagne à la fin du 19e siècle, sachant qu'en Allemagne à la fin du 19e siècle, il y avait toute une série de réflexions allant dans ce sens-là, donc chez les premiers sociologues, mais aussi chez d'autres, chez des jeunes gens, chez des militants, chez des auteurs de littérature. Il y avait une conscience très intéressante de ces problèmes et qui était liée au fait que la révolution industrielle en Allemagne a commencé très tardivement, beaucoup plus tard, un siècle après l'Angleterre, au moins 50-60 ans après la France. Par exemple, en 1870, l'Allemagne est un pays moins industrialisé que la Belgique, que la Hollande ou que la Suisse même. Donc c'est un pays en retard. Par contre, à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914, l'Allemagne est la deuxième puissance industrielle mondiale juste à égalité avec les États-Unis. Et elle a même dépassé déjà l'Angleterre à ce moment-là. Où elle est. C'est à peu près à ce niveau-là. Ça veut dire que la révolution industrielle que les Anglais ont mis 150 ans à accomplir, les Allemands ont mis même pas 40 ans à la faire. Et donc les bouleversements, les transformations en termes de style de vie, d'aspect de la nature même, des paysages, etc., ont été d'une violence assez incroyable. Parce que pour des individus, par exemple, qui sont nés, on va dire, dans les années 1850-1860, ils sont nés dans un monde, dans une société plutôt rurale, plutôt agraire. Et quand ils avaient 50 ans, au tournant du siècle, en 1900 ou juste avant la Première Guerre mondiale, eh ben, le monde dans lequel ils avaient grandi avait littéralement été complètement éliminé. Il avait disparu sous les coups de butoir d'une industrialisation qui allait très rapidement. Et donc, du coup, les effets de l'industrialisation étaient beaucoup plus visibles. Et il y a eu toute une réflexion autour de ça. Alors qu'en France, je pense, comme le mouvement s'est fait beaucoup plus lentement, et en Angleterre, comme il a été plus progressif, c'était plus facile de l'interpréter comme un progrès, justement. Alors que là, c'était d'une telle brutalité que ça a suscité la réflexion, et notamment une réflexion sur la nature même des forces productives, donc des infrastructures industrielles mises en jeu par le capitalisme. Il faut voir qu'en Allemagne, l'Allemagne à la fin du 19e siècle est en avance considérable dans l'organisation de la technoscience moderne. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est en Allemagne qu'il y a les plus grands instituts de recherche directement financés par l'industrie, par l'État, avec des financements des banques, etc. La science, l'activité des scientifiques n'est plus un passe-temps d'aristocrates ou d'intellectuels qui font ça comme hobby, comme c'était le cas encore au XVIIe, XVIIIe siècle, comme une activité un petit peu de oisif. Non, là, c'est une activité intégralement organisée avec des grands instituts, des chercheurs salariés, des décideurs qui donnent les directions à prendre, qui décident de financer tel ou tel projet de recherche et pas tel autre. Ce qui se traduit par une donnée très simple. Jusqu'à la guerre, entre 1880, je crois, et 1914, un prix Nobel sur deux est allemand. Il y a une puissance productive scientifique qui est très forte. Donc ça, c'est en amont, en quelque sorte, des machines. Et puis en aval des machines, il y a toute une nouvelle organisation du travail à l'usine. Donc l'Allemagne est à cette époque en pointe dans ce qu'on appelle aujourd'hui le management, l'organisation scientifique du travail par des ingénieurs qui sont distincts des ouvriers. Ce ne sont plus les ouvriers qui organisent leur journée de travail selon leur volonté, comme le faisaient les artisans autrefois. Ce sont des ingénieurs qui fixent des objectifs et qui organisent le travail des autres. Et bien sûr, encore plus en aval, ça se traduit par un bouleversement complet de la société, parce que les rapports sociaux, les relations sociales que nous entretenons les uns avec les autres, on le sait, passent beaucoup par des biens qui s'échangent, des biens dans tous les sens, enfin dans le sens le plus large du terme. Ça peut être des idées, des choses matérielles, des services, etc. Le tissu social est fait de cette circulation des biens entre les individus. Et ce que produit l'avènement du machinisme, du capitalisme industriel, c'est le fait que les biens ne vont plus être produits dans le même contexte. Ils ne sont plus produits à la ferme ou dans l'atelier de l'artisan, mais dans des immenses usines aux périphéries, voire même au cœur des très grandes villes. Donc c'est une production de masse. Et bien sûr, du coup, les biens ne circulent plus de la même manière entre les hommes et ne les relient plus de la même manière. Quand vous allez demander, quand vous allez acheter une boîte d'œufs à votre voisin qui est agriculteur ou qui a une petite ferme, c'est toujours l'occasion d'échanger un certain nombre de nouvelles, de se dire un certain nombre de choses. Et ça contribue donc, comme on le dit aujourd'hui, à tisser du lien social. Bien sûr, quand vous allez acheter une boîte d'œufs au supermarché, voir un distributeur automatique d'œufs devant un supermarché, comme il en existe, ou comme il va en exister bientôt, sans doute, en tous les cas, il y a des distributeurs de lait déjà, eh bien, voilà, il n'y a pas du tout cet échange-là, ce bien qui circule ne crée pas du tout les mêmes liens, voire n'en crée pas du tout, ou il crée des liens de dépendance monétaire vis-à-vis des grandes organisations qui produisent les œufs, le lait, etc., etc. C'est-à-dire que les fondements de la société, qui sont donc la circulation des biens entre les individus, les échanges de toutes sortes, sont complètement bouleversés par cette nouvelle organisation du travail, cette puissance productive majeure. Alors pour la plupart des gens, pour les marxistes, mais pas seulement, pour la plupart des gens, Cette nouvelle organisation, elle est géniale parce qu'il y a une production en masse, il y a une abondance absolument incroyable. Et donc tout le monde se dit, bon, c'est génial, on va pouvoir dépasser la rareté, voire peut-être même la misère de la condition ouvrière, qui était quelque chose de particulièrement scandaleux à l'époque. Donc on se réjouissait plutôt de ça, sans voir les impacts sociaux assez importants que ça allait avoir.
Alors justement, Aurélien Berlin, jusqu'à présent, vous nous avez fait une sorte de description du cadre général de pensée dans lequel se situent vos trois sociologues allemands. Et de fait, on a vu passer des concepts qui leur sont communs aux trois et qui sont ceux à partir desquels vous avez réfléchi vous-même. Mais je trouve qu'ils ont, et c'est ça qui est très intéressant dans votre livre, ils ont des manières extrêmement différentes d'aborder ces questions-là. Et dans la façon dont vous les avez agencées, on voit une sorte d'engrenage implacable se mettre en place. Et donc je vous propose qu'on reprenne cette façon de découper que vous avez eue, qui a été la vôtre. Le moins connu des trois, je le disais, c'est Ferdinand Tönnies. C'est sans doute pas par hasard qu'on le lit moins aujourd'hui, parce que sa manière de penser est sans doute celle qui nous est devenue la plus étrangère. Me semble-t-il, il a une forme de pensée analogique dont on a tendance à se méfier un peu aujourd'hui. Et pourtant, quand on le suit, on s'aperçoit que c'est une façon d'éclairer des choses qui est tout à fait intéressante. Et justement, lui, il s'est énormément attaché à la description des liens sociaux et de la façon dont ces liens se sont détruits, dissous, dans le passage de ce qu'il appelle une forme de vie communautaire à la société. Alors peut-être faut-il commencer par préciser ce qu'il y a sous ces concepts, puisque je pense qu'aujourd'hui, dans le terme communautaire, on n'entend plus du tout ce que lui y mettait, et la société nous semble une sorte d'évidence de base. Donc Aurélien Berlin, vous nous expliquez ces concepts, et puis vous nous parlez de Ferdinand Tönnies.
Alors en effet, c'est les deux concepts principaux de Ferdinand Tönnies, donc qui a écrit un livre en 1887 qui s'appelle « Communauté et société ». Lui, ce qu'il essaie de comprendre, c'est les tendances sociale de son temps, donc la tendance à ce qu'on appelle aujourd'hui la perte de lien social, ou lui ce qu'il appelle la dissolution des formes de vie communautaires. Qu'est-ce qu'une communauté, qu'est-ce que c'est que la forme de vie communautaire pour Tönnies? Bon, c'est la forme de vie typique de l'humanité avant l'avènement de la modernité. C'est caractérisé par quoi, une communauté? Une communauté, c'est essentiellement c'est l'idée de liens qui unissent malgré les distinctions qu'il y a entre les individus. Parce qu'une communauté, elle est basée sur un minimum de partage des biens, de l'idée d'un certain nombre de biens communs, que ce soit les biens partagés au sein d'une communauté familiale, ou bien les communaux, les bâtiments publics partagés au sein d'une communauté villageoise.
Il me semble que l'autre élément important dans une communauté, c'est l'interconnaissance, le fait qu'on se connaisse.
Voilà. Le fait qu'il y a des biens partagés entre les individus, fait que ces gens sont amenés à se fréquenter justement pour régler, parler, gérer un petit peu l'usage de ces biens qui sont possédés en commun. Donc on a un certain nombre de biens partagés, une interconnaissance forte, qui fait qu'aussi les gens ne sont pas reliés seulement à titre de fonction sociale, mais qui sont reliés à titre de personnes qui se connaissent. Prenons l'exemple par exemple dans un village, puisque Tönnies était quelqu'un qui est né à la campagne. C'est un des rares sociologues qui n'était pas directement urbain. Dans un village, il y a bien sûr des fonctions sociales différentes. Il y a des charpentiers, des artisans, boulangers, etc. Mais tous ces gens sont amenés à se fréquenter, à se connaître assez intimement à cause des biens qu'ils ont en commun au sein du village, et à cause de toute une autre série de liens qui se tissent entre eux, de liens via les enfants, via les alliances matrimoniales, etc., etc. De telle sorte que l'interconnaissance est telle que le boulanger, quand il voit arriver quelqu'un dans sa boulangerie du village, c'est pas seulement une fonction sociale qu'il voit arriver, client suppose solvabilité, mais un individu. Et donc si cet individu, cette personne-là, a pour X raisons des problèmes pour payer le pain aujourd'hui ou demande un crédit, etc., l'interconnaissance, la confiance fait que ça se faisait très largement. Alors qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une boulangerie, dans une grande ville typique, il est tout à fait inconcevable, quasiment impossible, de demander crédit sur une baguette, tout simplement parce que Le boulanger, c'est la fonction sociale boulangerie, et puis le client, c'est la fonction sociale client. Et c'est tout. Il n'y a plus de lien qui nous unissent et qui permettent aux biens de circuler indépendamment d'un échange, d'un paiement comptant, comme on dit. Voilà, donc ce qui définit vraiment la communauté, ce n'est pas l'absence de l'argent ou l'absence complète de relations marchandes, c'est la manière dont ces relations marchandes ne sont pas complètement déconnectées des autres aspects de la vie sociale, de la dimension affective, des rapports humains, de l'entraide, de la solidarité, etc.
Cette communauté, elle produit aussi des formes d'organisation qui lui sont propres et des formes de décision qui lui sont propres.
Tenise, quand il décrit la communauté, ne voit pas un monde idyllique où les gens tout le monde serait à égalité. Au contraire, il insiste sur le fait que la spécificité de la communauté, c'est, comme je vous l'ai dit, des liens qui unissent les gens malgré les différences de statut qu'ils ont. Donc dans les communautés, ou dans le concept de communauté tel qu'il le construit, il n'y a pas d'égalité juridique absolue entre les personnes. Il y a au contraire des statuts très, très différents, statut d'homme, de femme, statut d'adulte, d'enfant, ça bien sûr, statut aussi parfois seigneur, paysan, etc. Il y a des différences très fortes de statut, de rang, d'ordre social, de préséance en général dans les communautés, et donc aussi des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. Donc la communauté n'est pas un monde idyllique d'égalité parfaite, c'est pas le monde par exemple décrit par certains anthropologues, des sociétés primitives avec une égalité totale. C'est un monde où il y a des différences très nettes, mais malgré ces différences, l'existence de biens communs, d'institutions communes, l'interconnaissance, le partage d'un certain nombre de croyances aussi, notamment sous la forme religieuse, etc., fait que malgré ces différences de statut, il y a quand même du lien entre les gens, de la solidarité, de l'entraide, de haut en bas, on va dire aussi. Ce n'est pas juste de manière horizontale entre les gens qui sont du même rang, mais il peut y avoir aussi ces formes-là d'entraide entre les gens supérieurs, les gens de statut supérieur et les gens de statut inférieur.
Là, on pourrait peut-être amorcer ce mouvement que Tenise voit vers un autre système, le système qu'il appelle la société. Vous avez cité un certain nombre d'éléments, Aurélien Berland, qu'on a tendance aujourd'hui à voir comme des sortes de petites choses très laides du passé. Le lien qui unit, qu'on le veuille ou non, les personnes au sein d'un village, l'absence totale d'égalité entre les membres d'une communauté, le fait aussi... on peut le préciser que ces inégalités étaient totalement figées, c'est-à-dire qu'il était impossible pour quelqu'un de sortir de son statut, et donc on avait une position sociale à vie, et on était lié aux autres à vie. Et bon gré mal gré, il fallait échanger avec les membres de la communauté. Et donc le système qui est arrivé est apparu, et nous apparaît toujours souvent aujourd'hui comme extraordinairement libérateur.
En effet, de même que la communauté est définie, la forme de vie communautaire est définie et caractérisée comme forme sociale par des liens qui unissent malgré les différences de statut des gens qui sont mis en lien. La forme sociale qui serait caractéristique des sociétés modernes selon Tenise, c'est quelque chose d'autre, c'est un autre type de lien social qui sépare ou qui isole malgré l'égalité qui est mise entre les termes. Alors, j'explique Tenise. En effet, ce qui caractérise un des aspects centraux de la société moderne, c'est l'égalité juridique qui est mise en place entre les individus. Bon, égalité juridique, égalité purement formelle, puisqu'il n'y a plus de différence de statut, de rang, de préséance, plus de différence symbolique entre les individus. On n'est pas enfermé dans un rôle. Néanmoins, il y a énormément d'égalité. Il y en a même plus, beaucoup plus aujourd'hui que dans la plupart des sociétés traditionnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Montenis, c'est que cette égalité juridique qui est mise en place entre l'ensemble des individus se fait dans un cadre d'un individualisme, une forme de vie plutôt individualiste, on va dire, donc où on se sépare de ces liens communautaires, on n'est plus pris dans ces échanges, dans ces obligations d'échanges réciproques de biens, je te rends service parce que tu m'as rendu service ou parce que ton père a rendu service au mien, etc., dans une autre situation. Et donc, on aboutit à ce paradoxe qui est ressenti très fortement, je crois encore aujourd'hui, par beaucoup de gens, d'un isolement, d'une solitude complète dans une société où, malgré tout, on est extrêmement liés, dépendants les uns des autres, mais où on a l'impression d'être tout seul. Et donc, bah voilà, il y a eu un basculement. On a obtenu, en effet, une égalité formelle juridique, ce qui était extrêmement important, mais ça s'est fait au détriment d'une certaine forme d'une certaine intensité des relations sociales et d'une certaine densité du tissu social.
L'explication du paradoxe, c'est peut-être justement dans ce que vous venez de dire, le fait qu'on reste extrêmement dépendants les uns des autres, même si on n'a plus cette impression.
Voilà, bah c'est même une dépendance qui est encore en partie pire. En tous les cas, l'idée de Tony, c'est dire, dans tous les cas de figure, en fait, on est dépendant les uns des autres. Les êtres humains ne vivent pas seuls, contrairement au mythe un petit peu qui est au fondement de l'individualisme moderne, où on pourrait se construire tout seul, etc. Non, on est toujours liés les uns aux autres, parce qu'on a besoin les uns des autres, des compétences des autres, des savoir-faire, des biens, etc., etc. Mais il y a des liens sur lesquels on a prise, parce qu'ils ne sont pas, ils se font à une échelle, justement, soit d'une famille, d'un village ou d'une petite cité. Ça, c'est les trois types de communautés selon Tenise, la famille, le village et la petite cité, et dans lesquelles il y a de l'interconnaissance, etc. Et donc, on peut parler de ces liens de dépendance qui nous unissent, et ils sont à la portée des individus. Par contre, les liens de dépendance caractéristiques de la société moderne, les liens qui unissent les individus, ils se font à une échelle désormais planétaire, c'est le marché mondial, de telle sorte qu'aujourd'hui, par exemple, on est dépendant, dans une très large mesure pour la quasi-totalité des Européens, on est dépendant de petits Chinois ou de petits Thaïlandais pour la quasi-totalité des habits que nous portons. Nous sommes liés objectivement à ces gens-là, très très loin, par les habits que nous portons. Nous n'en avons pas forcément conscience. En tous les cas, tout le travail de l'appareil marketing et publicitaire est de nous faire oublier tout ça. Mais par contre, ce qui est impossible, du coup, c'est de pouvoir discuter éventuellement avec ces enfants ou ces adultes en Asie qui produisent nos biens, nos vêtements, sur la manière dont on les voudrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour qu'eux aient des meilleures conditions de vie, etc. Alors, c'était pas forcément facile au sein d'une communauté traditionnelle de discuter, mais les gens étaient là, il y avait cette possibilité là, et de temps en temps certaines communautés s'en sont emparées et sont parvenues à faire ce type de travail, un petit peu comme ce qui se fait aujourd'hui par exemple au Mexique, dans la zone du Chiapas zapatiste.
Mais au-delà de ça, au-delà de cette dépendance aux petits ouvriers chinois ou thaïlandais, Aurélien Berland, il y a la perte d'une autonomie, c'est-à-dire la perte d'une façon autonome de créer ses propres conditions de vie, tout de même.
C'est le revers, en quelque sorte, de cette médaille-là, en effet. C'est que l'autonomie, alors, qu'il ne faut pas penser comme autarcie, encore une fois, personne n'est autarcique, on a tous besoin des autres, même le mythe, en fait, de l'autarcie ou de l'individu tout seul, c'est Robinson Crusoe, c'est un des mythes fondateurs de la modernité. Mais Robinson Crusoe n'est pas tout seul sur son île, non pas parce qu'il y a vendredi, mais tout simplement parce que l'intégralité de la civilisation occidentale l'accompagne sous forme d'outils, de caisses, d'objets qu'il trouve sur le rivage après son naufrage. Et donc, en fait, s'il peut façonner son monde tout seul, se construire une maison, etc., c'est parce qu'il l'a. L'appui, finalement, de toute cette civilisation, de gens qui ont fabriqué ces outils, etc., etc., et qui lui permettent de faire ça. Donc, l'autonomie, c'est pas l'autarcie. Par contre, l'autonomie, c'est en effet, c'est une capacité à la fois de faire soi-même les choses, soi-même au sens individuel ou collectif, et d'être capable aussi d'en discuter, de négocier les conditions de cette manière de faire les choses pour que tout le monde s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Et ça, bien sûr, c'est ce qui est complètement perdu. On perd l'autonomie à la fois. Aujourd'hui, la société est basée sur l'idée qu'on fait faire tout plutôt que faire soi-même. Il vaut mieux faire faire par des autres, ils sont mieux, ils sont formés, ils sont experts, ils sont spécialistes. On fait faire nos maisons, on fait faire l'éducation de nos enfants, enfin on fait éduquer nos enfants par l'école, etc., à tous les niveaux. Et ça se fait à une échelle telle que les individus en chair et en os n'ont aucune possibilité de se retrouver, par exemple, autour d'une table ou autour d'une agora, d'un espace public, pour en discuter. La seule manière d'en discuter, c'est éventuellement dans les sphères très éthérées des médias et des représentations politiques, mais ça n'a rien à voir avec en discuter entre individus.
Et de fait, c'est l'organisation du travail et donc de la production qui a fait ce passage-là.
Voilà l'organisation du travail, donc basée sur, sur trois transformations fondamentales que sont donc, le recours aux machines, la salarisation des travailleurs et l'organisation de leur travail par des managers et la concentration des ouvriers dans des unités productives géantes ou très grandes comme des usines. Et en effet, mise à l'écart, détachée de la vie sociale, mise à l'écart du quotidien des individus. Et alors, le gain, là, c'est une puissance productive littéralement colossale, une capacité de produire des biens en masse qu'aucun individu isolé ou petite équipe d'artisans ne pouvait avoir autrefois. Et la contrepartie, c'est que ça induit des transformations sociales qui ont des effets aussi pervers, on le voit aujourd'hui. Et bien sûr, sur le plan écologique, le revers de cette puissance productive, c'est une puissance destructrice littéralement colossale en termes de ressources et puis de la nature qui nous entoure.
Ce qui est curieux, c'est que ce modèle d'organisation ne cesse de s'accentuer jusqu'à aujourd'hui. Il me semble qu'en particulier sur l'éloignement des lieux de production ou d'éducation des enfants, enfin, tous ces sites qui s'éloignent de plus en plus. Alors, on pense évidemment aux délocalisations, mais les écoles quittent le centre des villages et puis se regroupent un peu plus loin. Et puis les bâtiments eux-mêmes ont tendance à se refermer sur eux. Quand on regarde l'architecture des collèges les plus récentes, c'est des sortes de prisons fermées sur elles-mêmes et totalement opaques au monde extérieur, comme s'il n'y avait pas de fin à ce mouvement.
Moi, c'est pour ça notamment que j'ai trouvé la Tenise un penseur intéressant. Il a su déceler, il y avait beaucoup de choses à analyser à son époque, il y avait beaucoup de tendances, etc. Il a senti que celle-là, c'était pas une tendance passagère, c'était une tendance constitutive de la vie moderne. Et c'est ça qui fait que son discours est toujours actuel, parce qu'on voit que ce processus qu'il trouvait et qu'il jugeait déjà calamiteux et déjà tellement avancé à son époque, ne cesse de s'approfondir, ne cesse d'aller plus loin en termes de dépendance des individus vis-à-vis de réseaux d'échanges maintenant mondialisés sur lesquels ils n'ont aucune prise, de sentiments de solitude, d'isolement, de perte de lien social. C'est-à-dire qu'il avait identifié, il avait vu assez juste un phénomène fondamental de notre époque qui n'était pas identifié comme tel, ou pas en tous les cas comme problématique, par la plupart de ses contemporains. Il y avait déjà des gens qui s'en plaignaient, mais il y avait des gens qui insistaient surtout, le dépassement de la rareté et puis la mise en place de l'égalité juridique leur semblait être quelque chose de suffisamment important pour accepter une contrepartie assez géniale. Aujourd'hui, on a l'impression, on est de plus en plus, j'ai l'impression, de gens à sentir que la contrepartie est quand même très très dure en termes de vie personnelle, et qu'on se dit qu'en fait, peut-être qu'on a passé un seuil, qu'au-delà d'un certain seuil, cette tendance qui pouvait avoir des aspects positifs se retourne et a plutôt tendance à écraser l'individu.
Second penseur, c'est Jörg Simmel. Peut-être que ce que vous avez le plus mis en exergue de ses œuvres, c'est toute sa réflexion sur l'argent et peut-être aussi toute sa réflexion sur le mouvement, sur l'accélération.
Alors, Jörg Simmel, c'est quelqu'un qui a écrit en 1900 un grand livre qui s'appelle Philosophie de l'argent. Bon, c'est un livre très long, 600 pages. Et qui est quand même la synthèse de sa pensée. Il a écrit beaucoup d'autres choses sur bien d'autres sujets, mais c'est un petit peu la synthèse de sa pensée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au cœur de mon livre, en m'appuyant aussi sur d'autres passages de son œuvre. Il s'est intéressé à l'argent parce que lui, ce qu'il voit comme tendance fondamentale de son temps, qui là encore s'est confirmé, c'est la tendance à la marchandisation ou à la monétarisation de l'ensemble des biens et des liens qui se constituent autour des biens entre les humains. On voit encore, c'est un thème tout à fait d'actualité, hein. La marchandisation du monde ne cesse de s'approfondir, de même que la dissolution des formes de vie communautaire. Et en effet, il a relié ça à une autre tendance qui ne cesse, elle aussi, de s'approfondir et de faire parler d'elle dans l'espace public, qui est celle à une espèce, un sentiment d'accélération croissante de l'histoire, de bougisme. Il y a des auteurs qui parlent de bougisme aujourd'hui, au sens où il faut que ça bouge, il faut que tout circule de plus en plus vite. On pense bien sûr à la circulation des hommes, des marchandises sur la planète, des trains qui vont de plus en plus vite, des avions, de besoin d'aller toujours plus vite. Mais ça se traduit aussi par plein d'autres sentiments, notamment de travailler toujours plus vite, de ne jamais avoir de temps, tout un stress qui se traduit parfois par des burn-out, pour utiliser les mots des analystes les plus récents sur les impacts psychologiques de ces tendances-là. Alors il se trouve que Zimmel estimait qu'il y avait un lien très net entre ces deux phénomènes-là, que la marchandisation du monde et l'accélération de la vie quotidienne allaient complètement ensemble, que c'était les deux faces de la même médaille, de cette médaille qui est la modernité industrielle et marchande.
C'est son analyse de ce qu'est l'argent et le système monétaire qui est tout à fait fondamental là.
Zimmel est un auteur qui a aussi tendance à penser par analogie. En tous les cas, il voit déjà une analogie très nette. L'argent, toute l'essence de l'argent, c'est le mouvement. Un argent qu'on laisse au fond d'un tiroir chez nous et qu'on ne fait pas circuler ne se réalise pas en tant qu'argent, c'est-à-dire en tant que moyen d'échange. L'argent ne réalise son essence, sa fonction de moyen d'échange qu'à partir du moment où il sort de notre poche et qu'il commence à circuler dans la communauté. Donc la thésaurisation est quelque part contraire à l'essence de l'argent. L'essence de l'argent, c'est le mouvement, c'est le passage, c'est la circulation. Donc déjà, il y a ce lien un petit peu analogique, on va dire, entre la tendance à l'accélération et l'argent en tant que moyen de circulation, de faire circuler les choses.
L'argent, c'est aussi une puissance qui pousse vers l'abstraction.
Ça, c'est un autre aspect, en effet, sur lequel Zimmel insiste, qui est le fait qu'à partir du moment où les choses deviennent monnayables ou marchandises, elles ne sont plus analysables seulement en termes de valeur d'usage, donc les services concrets qu'elles rendent tout à fait particuliers, elles deviennent analysables en termes de prix, de qu'est-ce qu'elles coûtent, donc en tant que valeur d'échange. Et à partir du moment où on les conçoit sous cet angle-là, elles sont toutes équivalentes. Donc se produit une abstraction complète des qualités particulière des objets, et parfois même la seule qualité qui compte, ça va devenir son prix. Pensons par exemple à des phénomènes un petit peu pathologiques, mais on sait qu'on est tous victimes de ça, ou on est tous passés par là tôt ou tard, sur la croyance par exemple que tel bien, parce qu'il est plus cher ou moins cher, serait plus intéressant ou moins intéressant que tel autre, et qu'on va se décider finalement acheter une voiture plutôt qu'un meuble, ou un voyage plutôt que je ne sais quoi, à cause de ces questions de prix. Donc là, on se détermine en fonction de quelque chose d'assez abstrait qui serait la valeur des choses, leur prix.
Et en fait, dans votre exemple, Aurélien Berland, ce qu'on voit apparaître, et qui me paraît un des arguments intéressants de Zimmel, c'est que cette abstraction et cette monétarisation, elles ont aussi un impact sur la société, sur les gens.
Voilà, sur la société, sur les gens même plutôt. Ce qui est très intéressant chez Zimmel, on retrouve ça chez Tenise aussi, c'est il s'intéresse à l'impact anthropologique en fait de l'argent. Sa question, c'est de se dire, est-ce que par rapport à notre humanité, il est indifférent ou non d'avoir toujours à se trimballer avec un porte-monnaie sur soi? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce que ça implique en termes de rapport au monde, de rapport aux autres et de rapport à soi, le fait qu'aujourd'hui, on ne puisse littéralement plus sortir dans la rue, en tous les cas dans les grandes villes, sans avoir un porte-monnaie et de l'argent sur soi. Selon Zimmel, lui, il est persuadé que ça change, en fait, ça change la vie humaine, ça change la vie intérieure, ça change le rapport au monde, le rapport à soi, le rapport aux autres. Ça change le rapport aux autres, puisque maintenant, le rapport aux autres va passer par l'argent. En quelque sorte, l'argent est devenu le lien social par excellence entre les humains à l'âge moderne, c'est-à-dire que toutes les choses s'échangeant par l'argent, ce qui me relie aux autres, c'est l'argent que j'ai. Donc aussi, quand on n'en a pas, quand on n'en a plus, eh ben, on est désocialisé. C'est l'expression utilisée pour analyser le sort des SDF aujourd'hui ou de l'extrême pauvreté. C'est ce phénomène de désocialisation. On ne peut plus se relier aux autres parce que pour se relier aux autres, Il faut justement de l'argent.
Pour concrétiser en quelque sorte ce lien qui est celui de l'argent entre les humains, ben les objets s'accumulent. Et ils s'accumulent d'autant plus que à l'argent s'adjoint cette accélération des choses. Et la mode en est une sorte de symbole tout à fait flagrant.
Alors voilà un des autres aspects de la réflexion, un des autres thèmes de la réflexion de Zimmel, c'est la mode, qui est complètement un phénomène qui permet de bien comprendre cette dimension de mouvement de la modernité, notamment son lien à l'argent. Alors la mode au sens d'un changement ou d'un caractère arbitraire des manières, par exemple, de se vêtir, etc., ça existe de tout temps. Ça, en effet, Zimmel insiste bien là-dessus. Ce qui se passe, par exemple, ce qui est spécifique aux sociétés modernes, c'est l'accélération de ce mouvement. Il y a une accélération dans le changement arbitraire des manières de faire et aussi une extension en termes de domaine. C'est-à-dire que longtemps, la mode, c'était les fringues, l'accoutrement ou les tatouages. C'était comme ça que l'humanité se différenciait depuis la plus haute antiquité, hein, depuis les tribus primitives même. C'était essentiellement ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, la mode, remarque Zimmel en 1900, elle s'empare aussi de l'ameublement, des types de maisons, des manières de parler, etc. etc. Il y a une extension de cette logique du changement arbitraire à peu près tous les domaines et une accélération qui fait qu'il faut changer de plus en plus vite de choses. Alors Zimmel se demande bien sûr, bon, alors d'où est-ce que ça vient? Et pour lui, il est évident que cet impérialisme, de la mode à l'âge moderne, est intrinsèquement lié à la civilisation industrielle, à la production en masse et à ce qui va avec sur le plan social, c'est-à-dire la marchandisation croissante des biens et des liens. Et de telle sorte que la mode, pour lui, voilà, permet à la est un autre élément qui révèle l'essence de ce monde moderne, de ce monde monétarisé, marchandisé, qui est le mouvement permanent, le mouvement perpétuel, on peut dire.
Et c'est là qu'on en arrive, Aurélien Berland, au paradoxe. Vous nous avez lu en introduction une citation de Weber qui commence par parler de l'ascétisme. Ce serait l'ascétisme qui serait à la racine de ce système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et moi, j'ai parlé tout à l'heure d'engrenage, et lui appelle cela une cage d'acier. Donc, tout ce mouvement qui nous a amenés vers la société, vers les liens monétaires, vers cette accélération des changements, qui serait souhaitée et souhaitable par tous, c'est une cage qui se serait refermée sur nous, une cage, dites-vous, si importante qu'il n'y a plus d'extérieur même à la cage. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Weber. Comment est-ce qu'on a pu partir de l'ascétisme pour arriver à cette accumulation de frivolité absolue ?
C'est en effet le paradoxe qui est au cœur de l'analyse que fait Weber. Weber donc se demande, un petit peu comme les autres, d'où vient ce monde si particulier du capitalisme industriel et comment il a pu se développer historiquement dans sa différence absolue avec la quasi-totalité des autres civilisations que la Terre a connues depuis que l'homme y est. Alors, à l'époque de Weber, il y avait toute une série de réflexions là-dessus. Il y avait notamment Marx. Marx qui estimait que le point central, c'était l'accumulation du capital. Et donc, ce qu'il fallait comprendre, c'était d'où venait le capital, d'où provenait le capital, donc comment s'était fait la première accumulation d'argent, etc., etc. Pour Weber, les choses sont complètement différentes. Lui ne croit pas que le problème essentiel, ce soit le capital en tant que tel. En tous les cas, quelque chose qu'il dit, non pas contre Marx, mais contre certains de ses épigones, et en tous les cas des interprétations très naïves de ce que c'est que le capitalisme ne se caractérise pas par la cupidité. C'est quelque chose qu'on lit encore aujourd'hui des économistes comme Stiglitz qui font des critiques de la cupidité, etc., etc. C'est gentil, c'est moralisant, mais ça n'a aucune pertinence historique. N'importe qui sait que dans n'importe quelle civilisation, que ce soit à Babylone, en Grèce, dans la Rome antique, en Chine agraire actuellement ou il y a 2000 ans, Il y avait des gens cupides, il y a toujours eu une soif d'argent, parce que l'argent était vecteur de pouvoir, etc. Ce n'est pas du tout ça qui caractérise le monde capitaliste moderne, ce n'est pas du tout une cupidité déchaînée, en quelque sorte. Et donc, sur la base de cette réflexion, Weber se demande, par contre, qu'est-ce qui caractérise le monde moderne, et ben c'est quelque chose dont vous avez beaucoup entendu parler ces dernières années, notamment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est la valeur travail. En fait, ce qui caractérise à un point inouï le monde occidental moderne, c'est la valorisation du travail pour le travail. Entendons-nous bien, donc, une des caractéristiques de notre civilisation, c'est que nous n'avons jamais accordé autant de temps au travail et autant de valeur au travail. On croit qu'on travaille moins qu'avant parce qu'on a des machines, etc., etc. Non, non, on travaille beaucoup plus que dans les sociétés médiévales, par exemple, que dans l'Antiquité, etc., etc., où il y avait beaucoup de le nombre déjà de fêtes religieuses, etc., faisait que les gens travaillaient beaucoup moins en réalité, en nombre d'heures. Et en termes de valorisation symbolique, tout le monde sait que la plupart des civilisations soit méprisaient le travail, ça c'était les Grecs, les Romains ou les nobles au Moyen-Âge, estimaient que c'était une activité vile, voire servile, soit l'accepter, mais comme une simple nécessité et comme une malédiction. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans la Bible, le travail est une malédiction divine, liée à la chute du paradis. Ça, on le retrouve dans énormément de civilisations. En tous les cas, il n'y a aucune civilisation qui n'avait valorisé le travail en tant que tel. Et donc la question, c'est de savoir, alors, d'où vient cette caractéristique ? Alors juste une remarque avant, cette accumulation de biens, cette productivité que nous avons aujourd'hui, elle est bien sûr liée aux machines, etc., mais elle est bien sûr aussi liée au fait qu'on travaille. Hein. On travaille beaucoup plus qu'auparavant, et on y attache beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Et donc la question de Weber, c'est de se demander d'où est-ce que ça vient ? Comment s'est fait un tel changement d'esprit à l'échelle de l'humanité ? C'est-à-dire que voilà, on serait passé d'une humanité qui aspirait surtout à l'indolence ou à une certaine forme de nonchalance, on travaillait par nécessité, voire on essayait de s'y soustraire, à une humanité où on a l'impression que si on n'a plus de travail, on n'a plus de vie et on ne peut plus vivre. Et c'est là que, justement, l'ascétisme protestant joue un rôle. Weber, donc, qui connaissait très bien le monde des religions, c'était un sociologue des religions, a remarqué, s'est demandé où a été valorisé pour la première fois le travail. Et donc ça s'est fait dans la civilisation occidentale, et ça s'est fait d'abord dans les monastères au Moyen-Âge.
Les fameuses cellules de moines.
Dans les monastères au Moyen-Âge, il y avait l'idée que donc l'homme d'après la chute est un être mauvais, un être qui doit se mortifier face à Dieu, et surtout éprouver le moins de plaisir possible. Et cette mortification de la créature est passée par l'idée que voilà, il faut avoir très peu de contact avec les autres, ne pas parler pendant les repas, etc. Avoir une vie extrêmement réglée et une vie consacrée chez certains ordres, Monaco, hein, pas tous, hein, mais un certain nombre d'ordres, ont institué le travail pour leurs membres. Ils n'en avaient pas spécialement besoin, ils pouvaient très, très largement vivre des biens que leur versaient les paysans, mais ils pratiquaient le travail comme mortification, et pour ça, ils ont inventé un terme qui a eu une fortune absolument exceptionnelle, qui était le terme industria. Industria, en latin, désignait le travail comme mortification dans un rapport à Dieu. Donc il y avait ça. Mais ça, c'était, voyez bien, les monastères, c'était des lieux complètement séparés du reste de la société, à 1000 lieues des autres modes de vie. Et les autres modes de vie restaient, les nobles ne travaillaient pas, les paysans travaillaient le moins possible pour satisfaire leurs besoins élémentaires, et c'est tout. Donc la deuxième étape, c'était comment s'est fait la généralisation de cette espèce d'éthique ascétique du travail à partir des monastères chrétiens. Eh bien, l'idée de Weber, c'est de dire que ça a été la grande œuvre du protestantisme. En effet, le protestantisme, Luther, une des premières choses qu'il a faites, c'est de dire que la séparation entre les moines qui vivent comme des saints d'un côté et donc le reste de la population qui ne se soumettrait pas aux mêmes règles de sainteté et de moralité chrétienne, donc qui vivraient, on pourrait dire, quasiment comme des porcs, c'est un scandale. Donc Luther a fait fermer l'ensemble des couvents, des monastères, et a dit il faut que tout le monde, tous les chrétiens, doivent vivre comme des saints, donc sur un mode aussi monacal. Et donc il a généralisé dans la société cette éthique du travail qui avait déjà été développée chez les moines au Moyen-Âge.
Et Tout de même, ce qui est très frappant et surprenant, Aurélien Berland, c'est que cet ascétisme qui donc fonde le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, où le travail est la valeur suprême et où toute la société est organisée, et vous parliez de la règle monacale tout à l'heure, et de fait, on a l'impression de vivre maintenant dans un immense couvent, où tout est absolument réglé, le temps, les activités, les allées et venues, tout est organisé autour du travail, eh bien, la partie spirituelle, qui était celle qui accompagnait et qui initiait ce mouvement, a disparu.
Voilà, bah alors ça c'est le dernier stade de la réflexion de Weber. Donc, il a essayé de montrer comment l'ascétisme du travail avait envahi la société entière à partir de l'endroit où elle était née, les monastères. Et après, la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est devenu dans la société. Bon, bah voilà, les protestants se sont mis à travailler éperdument, mais pour des raisons religieuses. Ils ne travaillaient pas pour accumuler de l'argent, pour se faire plaisir. C'est-à-dire que le travail, une vie vouée au travail, allait aussi avec une vie plutôt ascétique, sans aucun plaisir, où donc on épargnait de l'argent, on mettait du capital de côté, etc. Bien sûr, ça s'est traduit par une richesse croissante de la société, une production de plus en plus croissante de biens, de plaisir, le développement d'un marché monétaire, etc. Et donc, peu à peu, au fil des siècles, à partir de Luther, donc c'est le XVIe siècle, jusqu'au XXe siècle, ce développement d'une économie marchande basée sur cette éthique du travail a conduit à ce que les bons chrétiens qui étaient les protestants soient finalement séduits par l'ensemble des biens qu'ils ont produits et finalement se convertissent à une forme d'hédonisme. Et donc le paradoxe que montre Weber et qui est très intéressant à mon sens, c'est que notre société moderne, société capitaliste industrielle, est basée sur une sorte de schizophrénie générale où nous vivons comme des ascètes dans nos heures de travail, c'est-à-dire il y a vraiment encore ce travail mortification qui conduit à des déprimes, à des stress, etc., et qui est terrifiant pour la plupart des individus. Mais dès que nous avons fermé la porte du bureau, nous perdons tout ascétisme, et là, c'est plutôt une civilisation de l'hédonisme consumériste, etc. Donc on est clivé entre, d'un côté, une vie de travail ascétique, et puis en dehors de ces heures de travail, une quête un petit peu effrénée du plaisir, de la jouissance, pour compenser aussi peut-être les dégâts psychologiques que fait ce travail mortifère.
Et ce système se serait refermé sur nos sociétés comme un piège, comme une cage d'acier, ça c'est l'expression bien connue de Weber. Et de fait, ce qui circule chez ces trois sociologues que vous avez étudiés, Aurélien Berland, Ferdinand Antoniz, Georg Simmel et Max Weber, c'est une sorte de découragement face à ce système. Les trois semblent indiquer qu'il n'y aurait rien à faire, qu'ils sont fatalistes, que voilà, le système est celui-là, on ne pourra pas s'en sortir. C'est pas ce que vous dites.
Non, pas tout à fait. On a vu là dans la citation que j'ai faite tout à l'heure, qu'en effet, il y a un côté très fataliste sur Weber qui n'estime pas qu'une sortie du capitalisme ne sera possible que le jour où il n'y aura plus une goutte de carburant fossile. Donc, il pensait déjà à la fin du pétrole, comme certains écologistes l'ont pensé. Malheureusement, il semblerait que nos ingénieurs risquent de nous trouver des sources d'énergie infinies pour pouvoir continuer à alimenter la machinerie capitaliste, la croissance, la productivité, la consommation, etc. etc. Donc, ce scénario-là ne semble plus possible. En tout cas, oui, ces trois auteurs-là sont des auteurs très intéressants parce qu'ils sont extrêmement lucides, je pense, pour leur époque, et leur pensée est restée d'actualité. Par contre, le problème, c'est leur fatalisme. Donc j'ai essayé de montrer dans chacun des chapitres qui leur est consacré aussi que ce fatalisme, il était aussi conditionné par un certain nombre de réflexes politiques. Par exemple, prenons Max Weber. Donc il y a une analyse extrêmement lucide, extrêmement pertinente du capitalisme industriel et des apories du monde moderne, etc. Et où il met quand même en cause assez frontalement la dynamique de rationalisation, de croissance continue de la production, de l'usage croissant des machines, etc., etc. il n'en a tiré aucune conclusion politique de sortie du capitalisme personnellement, parce que par ailleurs, il était victime d'une maladie très, très fréquente au XIXe siècle, des deux côtés du Rhin, hein. C'était pas une spécificité allemande, malheureusement on n'a pas à se glorier de ça, c'était le nationalisme qui est en Allemagne aussi fort qu'en France. Il était très, très, très nationaliste. Et bien sûr, à partir du moment où on est très nationaliste, donc où le combat central, c'est le combat entre les nations, il faut donner le maximum de puissance à sa nation pour l'emporter dans la lutte contre les autres nations. Et pour avoir le maximum de puissance, il faut de l'industrie, il faut du travail, il faut travailler, il faut développer la productivité, les armes, etc., etc., et l'activité économique. Donc finalement, au nom de son nationalisme, Weber voit très bien toutes les impasses dans lesquelles nous pousse ce mouvement de production croissante et de rationalisation croissante de la société. Mais il y adhère parce que c'est le seul moyen de sauver la place de l'Allemagne dans le concert mondial des nations.
Quant à Zimmel, c'était un esthète et quelqu'un de fondamentalement apolitique. Et vous dites que là aussi, c'est ce qui l'a conduit dans cette impasse du fatalisme. Pour Tenise, les raisons de son impasse ?
Tenise, c'était quelqu'un qui valorisait d'un côté beaucoup les formes de vie populaire, qui avait cette sensibilité-là parce que lui-même était de la campagne. Et par ailleurs, il valorisait aussi beaucoup la science parce que c'était il croyait beaucoup là-dedans. Et en fait, il a toujours hésité entre les deux choses. Mais à la fin de sa vie, il s'est quand même converti finalement à l'idée d'une réorganisation scientifique de la société. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de revenir en arrière aux communautés, mais par contre, on pourrait essayer de créer une communauté d'un genre nouveau qui serait finalement la communauté communiste telle qu'elle était au programme des marxistes, mais un communisme qui serait basé sur la réorganisation complète par l'État de l'ensemble des activités des humains. Finalement, c'est vers ça qu'il est allé à la fin de sa vie.
Et on reconnaît là, Aurélien Berland, trois des impasses qui menacent la pensée occidentale aujourd'hui, le nationalisme, le scientisme et la volonté d'être apolitique.
C'est aussi pour ça que ces auteurs sont très intéressants, c'est parce que non seulement ils permettent de comprendre des tendances fondamentales de la société moderne par ce qu'ils ont analysé eux-mêmes, mais finalement les impasses de leur pensée nous permettent de penser d'autres tendances fondamentales de nos sociétés, d'autres manières de réagir face à ce monde tout nouveau produit par le capitalisme industriel, comme vous l'avez dit, donc le scientisme, l'individualisme apolitique et le nationalisme.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la réécouter ou la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Le livre d'Aurélien Berland, La fabrique des derniers hommes, est édité aux éditions de La Découverte. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, réalisation, Vincent Abouchard. Bonne semaine à tous.